Vous allez écouter Quartier Libre, une émission réalisée par les bénévoles des centres sociaux et culturels du Tricadou et de Ville-Marie en partenariat avec le Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, la Communauté d'Agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin et la Ville de Carpentras.
Bonjour et bienvenue sur RTVFM pour ce sixième numéro de l'émission Quartier Libre, animé par les bénévoles des centres sociaux et culturels Ville-Marie et Loup-Tricadou de Carpentras. Bonjour René, bonjour Josy, merci de votre présence aujourd'hui dans les studios de RTVFM.
Bonjour Alain.
Bonjour Alain et bonjour,
bonjour
à tout le
Alain.
Monde.
Et bonjour à Georges, notre invité que j'avais nommé. Bonjour Georges qui était invité, on est ravis Georges de te recevoir dans cette émission.
Merci.
Par contre, nous excusons Mounia qui est retenue par des obligations familiales que nous retrouverons avec plaisir dans l'émission du mois de juin. Donc Mounia est un petit peu absente mais je pense qu'elle nous écoute. On lui passe un grand bonjour de la part de toute l'équipe de RTVFM. La partie technique sera assurée par Théo. Salut Théo.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Théo n'avait pas prévu que je lui fasse un petit salut. Cette émission, comme toutes les autres, sera consacrée aux quartiers prioritaires politiques de la ville et à leurs habitants. Elle est réalisée en partenariat avec le CGET, qui est le Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, la Communauté d'Agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin et la Ville de Carpentras. Mais avant de débuter, voici le sommaire de Quartier Libre. Je crois que c'est toi, Josy, qui va nous donner le sommaire de cette émission.
C'est bien ça. Alors, pour ce sixième numéro, nous avons souhaité consacrer une grande partie de l'émission à une réhabilitation tant attendue par ses habitants, celle de la résidence du Pou du Planc, qui est située à l'entrée de Carpentras sur la route de Pernes. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons de la fête du soleil réalisée par l'ESCE Ville-Marie, qui aura lieu le samedi 3 juin. C'est toujours le premier samedi de juin d'ailleurs chaque année. Ensuite, Bruno nous parlera de sa participation au premier module d'initiation à la réalisation d'une vidéo qui s'est faite à l'atelier de l'ESCE Ville-Marie. Et puis nous aurons l'interview faite par René lors de l'animation au pied d'immeuble au bois de Lubac qui s'est faite le 21 avril dernier.
Voilà, un programme très riche. René, je sais que tu as énormément participé à cette émission. Encore, je tiens à t'en remercier. Beaucoup d'interviews qui ont été faites. Il faut le dire que cette émission, à plus de 90% est composée d'interviews qui ont été réalisées sur le terrain, on peut le préciser.
Ben, tout à fait, parce que bon, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées sur le territoire. Et automatiquement, vu que j'étais équipée pour faire justement ces petites interviews, j'en ai profité. Je me suis amusée, vraiment amusée.
Ben, tant mieux, en tout cas, nous, on aura l'occasion d'écouter un petit peu tout cela. Il y a des interviews que j'ai moi-même réalisées, des interviews que Théo a réalisées, tout ça pour faire donc cette émission. Alors, comme Josy, tu viens de le préciser en introduction, on va parler de la réhabilitation du Pou du Planc, qui est un dossier qui est quelque chose qui est attendu depuis de très, très longues dates par les habitants de la résidence du Pou du Planc à Carpentras. Alors, en introduction, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu cette résidence du Pou du Planc ?
Oui, alors chose que même moi j'ignorais, la résidence du Pou du Planc a été construite en 1969. Elle se composait à l'époque de 8 bâtiments, A, B, C, D, E, F, G. Le E fut démoli en 1993. On vous parlera peut-être du pourquoi, du comment plus tard. Elle est située dans la continuité de la ville, à 800 mètres de la gare, à 1 km du centre-ville, proche de tout commerce, services scolaires et associatifs. Alors, la partie domanialité. Une partie du terrain a été cédée par la commune de Carpentras à Mistral Habitat le 24 février 1968 par un acte administratif de cession gratuite. L'autre partie a été acquise le 3 février 1967. Mistral Habitat est propriétaire du sol et du bâti. Aujourd'hui, une requalification urbaine est envisagée car le quartier manque d'attractivité. Il y a des problèmes de vacances, d'image, de sentiment d'insécurité. Le nombre de jeunes de 16 à 25 ans est très important et la plupart sont sans emploi, sans formation. De plus, il y a parallèlement un vieillissement de la population. Alors, voici maintenant la présentation qui a été faite par le bureau d'études BERIM.
Je te coupe juste, Josy, effectivement, on en parlera, tu avais raison de me faire signe. On en parlera un petit peu après, c'est toute une étude qui a été faite sur les habitants, sur ce qu'ils pensent justement de leur résidence. On le verra, ils ont beaucoup d'avis positifs sur cette résidence. Alors, on va parler effectivement réhabilitation. Réhabilitation, donc c'est Mistral Habitat, entre autres, qui est derrière cette réhabilitation, mais pas que, puisqu'il y a l'État qui est fortement impliqué, il y a la ville de Carpentras, il y a la COV. Donc, on va écouter le premier interview interview qui a été réalisée, que nous avons réalisée il y a quelques temps, qui est le monsieur Karim Benaïssa qui répondait au micro d'RTVFM. Monsieur Karim Benaïssa qui est le responsable de l'agence de Mistral Habitat Carpentras. Il va nous parler justement un petit peu dans le détail des phases de travaux et des tranches justement de travaux. On écoute monsieur Karim Benaïssa. Karim Benaïssa, bonjour.
Bonjour.
Mais tout d'abord, merci de nous accueillir dans cette agence de proximité du Pou du Plan. Le Pou du Plan, ici où nous nous trouvons, il y a une revitalisation qui va démarrer. Est-ce que vous pouvez nous le développer et en dire un petit peu plus ?
Oui, tout à fait. Alors effectivement, sur cette réhabilitation au Pou du Plan et à travers déjà donc, nous, nos réunions régulières cadre de vie une fois par mois sur le secteur, qui permet donc de tenir informé et d'être plus près des locataires et de leurs interrogations. Nous avons donc cette réhabilitation qui va démarrer. Nous allons attaquer par les tours G, H et D sur déjà la mise en place de tout ce qui est menuiserie PVC avec volets roulants intégrés, la mise en place des VMC. Et en parallèle de ça, je pense qu'il y aura les gros travaux, donc l'aménagement de toutes les salles d'eau dans les logements, les cages d'escalier, les façades. Et en parallèle, pour justement les autres tranches, c'est-à-dire le BC et le AEF, où il s'enchaînera de toute façon en 2018, effectivement, les travaux aussi sur tout ce qui est menuiserie et VMC, et ainsi satisfaire l'ensemble de nos locataires. C'est quand même 432 logements au Pou du Plan. Hein.
Une amélioration du cadre de vie certaine. Est-ce qu'après, il y a une deuxième tranche de travaux par la suite ? Et est-ce que vous pouvez rassurer justement les locataires sur les travaux qui vont s'y dérouler, comme quoi ça ne gênera pas leur vie quotidienne ?
Alors, si vous voulez, oui, tout est fait sous forme de phase, parce qu'il est clair qu'il était impossible de pouvoir réaliser l'ensemble des travaux sur 432 logements. Donc, comme je l'ai expliqué, il va y avoir donc la première phase qui va correspondre aux bâtiments G, H et D. Cette phase-là devrait prendre, allez, un an et demi, deux ans de travaux. Donc, ça va être dilué dans le temps, justement, pour ne pas nuire au quotidien des locataires et leur permettre de ne pas venir chambouler leur cadre de vie, tout en améliorant justement leur cadre de vie à travers ces logements-là, sur la réhabilitation de ces logements. Et ensuite, ça va s'enchaîner. Donc, il y aura deux autres phases. Pareil, sur les mêmes délais. Hein. Donc, il y aura une phase 2 qui va durer entre un an et demi, deux ans, et une phase 3 qui va durer entre un an et demi, deux ans également, pour justement ne pas venir perturber le quotidien de nos locataires et leur faciliter, encore une fois, leur vie au quotidien.
Karim Benaïssa, merci. Je rappelle que vous êtes responsable de l'agence de proximité de Mistral Habitat au Pou du Plan, à Carpentras. Encore merci d'avoir répondu à notre interview.
Merci également et à une prochaine fois.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Voilà, et nous venons d'écouter l'interview de monsieur Karim Benaïssa qui nous parlait justement donc de cette réhabilitation qui va être lancée sur trois phases, première phase, deuxième phase et troisième phase. Donc une réhabilitation vraiment très attendue, on le disait René et Josie, par les habitants donc du Pou du Plan.
Oui, elles attendent de ça, ces dames, elles attendent de ça avec vraiment, c'est énorme parce qu'elles vont se retrouver dans des réalisations qui sont modernes et surtout qu'au niveau du bruit.
On en parlera tout à l'heure avec toi, René, parce que tu es donc habitante du Bois de Lubac, côté Ville-Marie.
Ville-Marie,
pardon.
Habitante de la résidence.
Résidence Ville-Marie. On parlera, puisque je te demande, toi, tu as cette réhabilitation a déjà eu lieu. Alors, c'est pas le même bailleur hein, sur Ville-Marie.
Non, c'est Grand Delta Habitat.
C'est Grand Delta Habitat.
Et je suis passée par là et je leur ai donné vraiment des bons conseils.
Voilà, justement, on en parlera tout à l'heure un petit peu de ce que tu as vécu et les côtés positifs de cette réhabilitation. Alors, juste après, je sais que tu as rencontré dans le cadre d'une... Bon, c'était pas une rencontre de cadre collectif, cadre de vie, c'était un autre moment, je crois, c'est le 19 avril. Tu as rencontré Madame Kavidja, qui est chargée de mission gestion urbaine et sociale de proximité à la mairie de Carpentras.
Oui,
et tu lui as posé... Elle est très, très impliquée, bien sûr, sur ce dossier de la réhabilitation. Et tu lui as posé, justement, quelques questions là-dessus. On va écouter cette interview que tu as réalisée la semaine dernière, si je ne me trompe, ou la semaine d'avant, il y a quelques jours.
Non, c'est
jours.
La semaine d'avant, exactement. Oui.
Allez, on va écouter ce que disait Martine Kavidja quand tu l'as interviewée sur cette réhabilitation.
Aujourd'hui, je suis au Pou du Plan avec une représentante de la mairie, Martine Kavidja, pour la réhabilitation du Pou du Plan. Martine, que vous en sortez de cette visite avec les habitants ?
D'abord, je crois qu'elle était nécessaire. C'était, me semble-t-il, parce qu'il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de la réhabilitation. Les habitants l'attendent depuis longtemps. Ils se demandent quels travaux vont réellement être faits, qu'est-ce que ça va changer aussi pour dans leur manière d'habiter. Donc, du coup, je pense que c'était important, au travers de la visite qui a été organisée cet après-midi de l'appartement témoin, dans lequel la totalité des travaux qui vont être faits dans la réhabilitation dans les logements ont été anticipés. aussi bien les menuiseries, les ventilations, que la réfection des sols, des pièces humides, le changement de tout ce qui concerne la plomberie, etc. Donc tous ces travaux ayant été faits, c'était important de pouvoir permettre aux habitants qui le souhaitaient de visiter l'appartement, de voir déjà, de visualiser ce que sera leur appartement une fois la réhabilitation faite, et puis aussi d'avoir des explications sur le bon usage des divers équipements. On a changé les fenêtres, il y a des ventilations, comment on aère correctement un logement pour éviter l'humidité, comment on utilise la chasse d'eau. C'était une chasse d'eau à deux vitesses avec un économiseur d'eau. Donc, à quoi ça sert? Comment on l'utilise pour essayer au mieux d'en tirer des économies d'énergie? Donc, toutes ces explications-là, c'était important de pouvoir les donner pour que les habitants comprennent bien ce qui va changer pour eux et comment ils peuvent tirer le meilleur parti de cette réhabilitation.
J'ai senti que beaucoup de dames étaient inquiètes sur justement le déroulement de ces travaux et que vous les aviez un petit peu rassurées parce que là, on est dans l'appartement témoin actuellement. Et ces dames se demandent un petit peu comment va se passer le déroulement de tous ces travaux par rapport à leur vie de tous les jours.
Hein. Vous faites bien de le dire parce qu'effectivement, la spécificité de cette réhabilitation, c'est qu'elle va se faire en milieu occupé. C'est-à-dire qu'en fait, les locataires ne sont pas temporairement relogés ailleurs, mais ils vont pouvoir tous les soirs dormir dans leur lit, manger dans leur maison. Par contre, dans la journée, pendant que l'entreprise travaille, ils sont obligés de quitter, de libérer le logement. Donc clairement, la question se posait de proposer un plan B pour les familles qui n'ont pas de solution de repli, la famille, les amis. Il y a des personnes qui sont isolées, dont la famille est lointaine et qui du coup n'ont pas d'endroit où se poser la journée avec éventuellement leurs enfants qui ne seraient pas encore scolarisés. Donc il fallait trouver une solution. Avec Mistral Habitat et le centre social Tricadou, on a imaginé aménager un appartement dans lequel on est là. C'est pas l'appartement témoin, c'est l'appartement de courtoisie mis à disposition par Mistral Habitat et dans lequel des aménagements ont été réalisés avec un financement de Mistral Habitat et de l'État dans le cadre du contrat de ville. Et cet appartement sera ouvert aux familles qui le souhaitent le temps de la journée, le temps des travaux dans leur logement. Ils pourront être accueillis dans cet appartement avec leurs enfants dans des espaces qui ont été aménagés pour les mamans, pour les enfants, pour les bébés, avec une table à langer, un petit lit, etc. Oui, mais un espace pour manger, pour faire réchauffer, alors pas pour cuisiner, ça s'y prête pas vraiment, mais pour faire réchauffer des repas qui auraient été préparés. Bref, et c'est aussi à l'occasion de cet accueil, le centre social donnera de l'information sur la réhabilitation, bien évidemment, mais aussi sera à l'écoute des attentes des habitants, de leurs inquiétudes, pour pouvoir derrière les renseigner au mieux ou les orienter au mieux vers les différents services susceptibles de les aider.
Eh bien, écoutez, j'étais en présence de Martine Cabidia, qui représente la mairie, évidemment, et j'espère que vous, les auditeurs, vous en saurez un petit peu plus. Et quand vous passerez devant le Pou du Plan, vous comprendrez un petit peu ce que les gens du Pou du Plan vont vivre et comment ils seront après les travaux. Je vous remercie.
Merci, René.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Voilà, pour ceux qui viennent de prendre l'émission juste en cours, on parle de la réhabilitation de la résidence du Pou du Plan à Carpentras. Et on vient d'entendre Martine Cavicia, donc interviewée par René, qui est Martine Cavicia, chargée de mission gestion urbaine et sociale de proximité à la mairie de Carpentras, qui nous parlait de cette visite de l'appartement témoin pour montrer justement la réhabilitation en milieu occupé, comment ça va se passer. C'est un appartement qui accueillera les familles, justement, comme précisait Martine Cavicia, qui les accueillera pendant le temps des travaux, pendant la journée. C'est cela, René?
Oui, voilà, parce que tous ces travaux, donc ces travaux qui vont être faits, c'est tous les travaux en zone humide. D'ailleurs, Thierry vous expliquera un petit peu la suite du déroulement des travaux. Et ces dames ont été, mais alors très, très, très à l'écoute de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été proposé, de tout ce qui va se faire. Hein.
Ben en tout cas, merci René. Donc, on continue sur le même thème. On va se faire, juste en attendant, une petite pause musicale. Et après, donc, on parlera de M. Denis Moron, qui est délégué du préfet pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais juste avant, on se fait une petite pause musicale.
Jamais rentrer, les rues j'y sens du passé.
Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Et oui, l'émission Quartier Libre, nous parlons aujourd'hui de la réhabilitation de la résidence Dupoux-Duplan. Nous avons entendu déjà pas mal d'interviews qui ont été effectuées sur le terrain par Josie, on en entend Théo, voilà pas mal d'interviews pour justement donner le point de vue, faire parler les professionnels, les institutionnels, les particuliers, on entendra aussi les habitants, une habitante qui s'exprimera justement sur cette réhabilitation. Et là, nous allons écouter maintenant une interview qui a été réalisée par Théo. C'est l'interview de Denis Moron, qui est délégué du préfet pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et Théo l'interviewait et lui demandait le rôle de l'État. On écoute Monsieur Denis Moron.
Et sur RTVFM, en ce moment même, on est avec Denis Moron, qui est le délégué du préfet pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Carpentras. Bonjour à vous.
Bonjour à vous aussi.
Il y a quelques minutes, il y a eu cette réunion concernant la réhabilitation du Pou du Plan. Et j'aimerais savoir quel est le rôle de l'État dans ce domaine.
Alors, dans les réhabilitations, il faut savoir que l'État est un des financeurs du logement social. Donc, l'État a financé la construction et finance la construction des logements sociaux. Mais il est aussi financeur de tout ce qui est réhabilitation. Donc, en l'occurrence, la réhabilitation du Pou du Plan, nous sommes un des cofinanceurs. Donc, c'est pour ça que nous sommes impliqués. D'ailleurs, quand il s'agit de monter le dossier de financement, les premiers à qui il a été demandé justement un avis, c'est à l'État, à la direction départementale des territoires, puisque c'est elle qui suit les dossiers de financement, de construction et de réhabilitation du logement social sur le territoire du département.
On n'a pas à parler de votre travail au quotidien, justement, comment ça se passe ?
Ah ben, au quotidien, c'est un travail très chargé, puisque je suis le représentant de l'État sur les quatre quartiers prioritaires de Carpentras, donc Pou du Plan, nous sommes aujourd'hui, le centre-ville, Amandier, Éléphant et Sablière sur le nord de la ville, et Ville-Marie, Bois de Lubac et le parc sur l'ouest de la ville. Donc je suis censé représenter tous les services de l'État, d'être le porte-parole de ces services auprès aussi bien des opérateurs du territoire, des différents acteurs, associations, centres sociaux, entreprises aussi, puisque on contacte aussi les entreprises, et les habitants, puisque je suis aussi le relais des habitants. Deuxième rôle, je suis aussi celui qui fait remonter les informations dans les services de l'État de ce qui se passe sur le territoire. Donc quand il y a des infos qui remontent aussi bien des mêmes partenaires, que ce soit les collectivités, les associations, les centres sociaux, entreprises, mais aussi les habitants, je fais remonter les informations vers les services de l'État. Donc je suis une sorte de porte d'entrée, de relais entre le territoire et les services de l'État sur ces quartiers-là.
L'avantage qu'on peut dire sur la réhabilitation, c'est qu'il va y avoir énormément d'économies d'énergie. Et j'imagine que l'État, elle est sensible à ce sujet.
Ah, totalement, puisque justement, c'est un des éléments qui est pris en compte pour justement, dans l'étude du dossier de financement de la réhabilitation du Pont du Plan. Quand on étudie les réhabilitations, justement, maintenant, il y a des critères qui sont pris en compte par l'État, qui sont les critères, justement, d'économie d'énergie. Et on demande aux bailleurs de nous faire, justement, une estimation de l'économie prévisionnelle que le locataire fera une fois la réhabilitation faite, pour justement voir le niveau de financement, voir justement quel impact sur les loyers, puisqu'en général, en plus de cette réhabilitation, fait toujours augmenter les loyers puisqu'il y a eu des coûts supplémentaires, une amélioration de la qualité du logement. Le but de l'opération étant, quand le bailleur fait cette étude, de nous montrer que l'amélioration justement de l'énergie, enfin justement, ils dépenseront moins de chauffage ou autre, devoir compenser cette augmentation, au moins en grosse partie, doit compenser l'augmentation de loyer. Donc voilà, oui, c'est un critère extrêmement important pour nous, comme pour d'autres d'ailleurs, hein, mais c'est un des gros critères de justement d'étude des dossiers de demande de réhabilitation.
En tout cas, Denis Mourant, merci. Je rappelle que, bien sûr, que vous êtes le délégué du préfet pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Carpentras et du Pont du Plan, entre autres. Merci à vous.
Merci et au revoir.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Alors, Josy René, rôle important, l'État. Très important dans une réhabilitation, bien entendu. Denis Mourant nous expliquait que l'État est partie prenante et c'est même lui qui assure le relais, c'est la porte d'entrée, comme il disait, entre l'État, les associations, les bailleurs. Donc c'est tout un ensemble, l'État, qui permet justement de faire remonter au plus haut sommet, puisque lui, il est donc délégué auprès du préfet pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ils font remonter les informations, mais les informations, elles démarrent d'en bas, en général.
Elles démarrent d'en bas, exactement. Et puis, il faut dire quand même une chose aussi, Alain, c'est que ces quartiers qui sont réhabilités, c'est quand même l'image de la ville. C'est la première image de la ville.
Tout à fait.
Parce que ça en avait vraiment, vraiment besoin.
Bah, c'est la route de Perne, c'est une pénétrante sur Carpentras. Avec une résidence qui est là, comme on l'expliquait tout à l'heure, Josy, comme nous l'a dit, depuis 1969. Et c'est vrai qu'elle voilà, elle a besoin d'être vraiment, vraiment rafraîchie. Pardon. Et ça va être le cas. Alors justement, on parle de réhabilitation, mais il n'y a pas de réhabilitation sans chargé d'opération. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui mène un petit peu l'ensemble de ces travaux. Et c'est ce que nous allons écouter maintenant, puisque nous avons réalisé l'interview de Madame Roméo Marie-Claire, qui est chargée d'opération Mistral Habitat pour l'ensemble du Vaucluse. Elle va nous parler un petit peu de cette réhabilitation, comment ça se passe, elle à son niveau, comment faire pour justement lancer des travaux de réhabilitation dans une résidence comme celle-ci. On l'écoute. Madame Roméo Marie-Claire, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chargée d'opération à Mistral Habitat, Mistral Habitat à Vaucluse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi votre présence cet après-midi avec ce collectif cadre de vie au Pont du Plan ?
Alors je m'occupe à la direction du développement de Mistral Habitat de la réhabilitation du Pont du Plan. Cette réhabilitation va concerner 153 logements dans un premier temps et ensuite 279. Je participe à ces collectifs cadres de vie pour présenter l'état d'avancement de la réhabilitation, où on en est, pour être en direct avec les locataires.
Alors cette réhabilitation, ça fait de très nombreuses années que l'on en parle sur le Pont du Plan. Donc vous nous dites que ça va démarrer par plusieurs tranches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, comment vont se dérouler les opérations dans les grandes lignes ?
Alors dans les grandes lignes, on a une première tranche de travaux qui concerne trois bâtiments, le bâtiment D, le bâtiment G et le bâtiment H, donc 153 logements. On attaque des travaux par anticipation sur les menuiseries extérieures et sur la ventilation. Parce qu'il y avait des gros soucis, comme la réhabilitation avait du mal à sortir, en fait. Du coup, on lance ces travaux qui attaquent. On a fait l'ordre de service pour démarrer ces travaux. Concrètement, le 16 avril, on a un démarrage des ventilations. Par ailleurs, on a une réunion publique qui se tient le 19 avril, où on va préciser aux locataires les modalités pour le lancement des travaux et où on a convié toute la population, donc les 432 logements qui sont concernés, pour leur parler de l'ensemble. Parce que bien sûr, la suite de la réhabilitation va continuer et tout le site va être réhabilité, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des inquiétudes de la part des habitants ? Quel va être votre rôle donc au sein de ce collectif et la discussion que vous allez avoir tout à l'heure avec ces personnes ?
Alors moi, je leur annonce les dates de démarrage, de quels travaux. J'essaye de leur expliquer le plus simplement et le plus clairement possible ce qui attaquera concrètement chez eux, ce qu'ils vont devoir faire pour se préparer aussi, préparer le logement, débarrasser devant les fenêtres, pour laisser accessible, pour que les entreprises puissent faire leur travail.
Alors justement, puisque vous êtes chargé d'opération Mistral Habitat, ce n'est pas votre première opération, qu'est-ce que vous pouvez dire donc aux habitants qui vont écouter cette interview ?
Il faut être présent, il faut l'entreprise, les entreprises vont prendre rendez-vous avec eux, donc il faut être là le jour J quand le rendez-vous est pris, il faut débarrasser devant les fenêtres, les personnes ne pourront pas être présentes également. Donc on a fait un partenariat avec le Tricadou pour gérer un logement de courtoisie qui pourra les accueillir à la journée. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place et je suis là pour leur expliquer tout ça dans le détail, plus dans le détail.
Qu'est-ce qu'on peut dire aussi aux habitants concernant justement une réhabilitation? Qu'est-ce que ça leur amène de plus au niveau confort?
Alors déjà sur les bâtiments, on revoit l'ensemble du bâti et de la thermique, c'est-à-dire que le but c'est de leur faire économiser des charges de chauffage. Ici on a un chauffage collectif qui est conservé, mais on va réisoler l'ensemble des bâtiments, des toitures, des caves, et on va refaire les réseaux de chauffage et on change toutes les fenêtres, on met du double vitrage, on revoit la ventilation puisqu'il n'y avait qu'une ventilation naturelle, donc vraiment on améliore la thermique, le cadre de vie. Donc dans les parties communes aussi il y aura des travaux, c'est très global en fait, on remet aux normes électriques les logements, il y a vraiment un ensemble de travaux qui concerne pas mal de l'eau, on va dire, du bâtiment en fait. Électricité, plomberie, chauffage, et j'en passe, voilà.
Quand vous côtoyez par la suite des habitants justement qui ont vu leur quartier réhabilité ou leur bâtiment réhabilité, qu'est-ce qu'ils vous disent en premier? Justement pour permettre aux autres qui seraient inquiets, qu'est-ce qu'ils ont tendance à vous dire?
Merci, ça arrive. Je suis actuellement une réhabilitation qui a duré 2 ans à Bolène. La résidence Victor Bache, qui a changé de nom d'ailleurs aussi. Et tout le monde me dit, et les locataires qui étaient en place, et les nouveaux arrivants, puisque dans cette réhabilitation, il y a eu des nouveaux arrivants, que voilà, les réactions sont très positives, et c'est vrai qu'on a réussi à changer l'image. Et après, voilà, c'est la participation de tous aussi, puisqu'il y a les extérieurs aussi, mais c'est vrai que ça change beaucoup de choses.
Je vous remercie. Donc, je rappelle que vous êtes Madame Roméo Marie-Claire et que vous êtes chargée d'opération à Mistral Habitat. Et vous nous parliez donc de la réhabilitation du Pou du Plan. Merci d'avoir répondu aux questions d'RTVFM.
Merci à vous.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Voilà, mais effectivement, on vient d'écouter Madame Roméo Marie-Claire, chargée d'opération Mistral Habitat Vaucluse, qui nous parlait de toutes les modalités. Alors René, le 19 avril, il y a eu un collectif qui s'est rassemblé, il y a eu une grosse réunion dont tu as participé, où il y a eu la visite de cet appartement témoin, l'appartement de courtoisie. Mmh. Tout est mis en place, en fin de compte, pour que les résidents vivent le mieux possible réhabilitation comme celle-ci.
Oui, c'est-à-dire qu'ils ont tout le confort qu'il faut pour justement, il y a un endroit pour les bébés, un endroit pour les mamans pour qu'elles se reposent dans la journée, il y a un coin cuisine, un coin salle de bain, c'est vraiment, c'est le top. Hein, pour, en dehors de son logement, ces dames pourront vraiment... être à leur aise. Il y a un salon où elles pourront partager café, thé, petits gâteaux. Vraiment, c'est un endroit super. Hein. Je ne pensais pas trouver ça, mais j'ai été très, très, très surprise.
Mais tant mieux. Alors, ce qu'on va faire, on se fait une nouvelle petite pause musicale et après, on va quand même entendre une bénévole du collectif Cadre de Vie qui s'exprimera justement sur cette réhabilitation. On entendra un petit peu son point de vue, ce qu'elle en passe. On se retrouve juste après cette pause musicale.
Compliqué, je ne choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces singes ont fait des cages où tous nous ranger. Jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de 1000 boîtes, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi 1000 chemins et serré 10 000 mains. et mes bras les me guident, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, 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 aïe. Si je vous gêne, passez la même. Si je vous gêne, passez la même. Hey, aïe, 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 aïe. Si je vous gêne, passez la même. Si je vous gêne, passez la même.
Écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Alors pour ce sixième numéro de l'émission Quartier Libre, animé par les bénévoles des centres sociaux culturels Ville-Marie et Loucrit-Ricadou, René et Josie, rebonjour à toutes les deux.
Bonjour, bonjour à toi Alain.
On est un petit peu plus de la moitié de cette émission et nous sommes sur un dossier un petit peu spécial puisque nous parlons de la réhabilitation de la résidence du Pou-du-Plan depuis le tout début de cette émission. On a entendu pas mal d'interviews, mais jusqu'à présent nous n'avions pas entendu encore d'habitantes de cette résidence pour nous parler un petit peu d'elles, ce qu'elles en pensaient de cette réhabilitation. Donc j'ai pu interviewer dans les micros d'RTVFM Nassera, qui est bénévole au collectif Cadre de Vie de la résidence du Pou-du-Plan. Alors ce collectif Cadre de Vie, il a été créé à l'initiative des habitants du Pou-du-Plan il y a déjà quelques années, et c'est ce collectif justement qui participe à toutes ces réunions et qui fait remonter, René si je ne me trompe, justement les soucis de la population concernant cette réhabilitation qui est vraiment souhaitée.
Automatiquement, toutes ces personnes qui ont assisté donc au déroulement de ces différents ateliers, parce qu'au départ ce sont quand même des ateliers, le soir se sont retrouvés donc avec les autorités de la mairie, de Mistral Habitat et les hautes autorités, donc pour débattre un petit peu de cette réhabilitation accompagnée du Pou-du-Plan.
Du Pou-du-Plan. Alors Josie, justement tout à l'heure, on va écouter Nassera et tu nous parleras un petit peu du ressenti, puisqu'il y a une étude devant toi qui a été faite par quelle agence ?
C'est le bureau d'études TCE Bérim.
Voilà, donc une étude sur ce que pensent les habitants de la résidence du Pou-du-Plan de leur lieu de vie. Donc on en parlera juste après si tu le permets, mais on va écouter donc cette interview de cette habitante du Pou-du-Plan. Nasser, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous faites partie du collectif Cadre de Vie des habitants du Pou-du-Plan. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce cadre de vie et pourquoi a-t-il été créé ?
Ça va faire 15 ans que j'habite sur le quartier, mais je ne le côtoyais pas du tout, ce collectif. Il n'y a que 2 ans que je commençais à le fréquenter et on essaye de faire pousser par rapport aux travaux qu'on a besoin en notre logement, qui ça dure très longtemps qu'on voit pas de résultats en fait. Et c'est pour ça qu'on fait des réunions sans arrêt pour réclamer nos droits, quoi, quelque part.
Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que d'être venu comme ça en nombre, et comme vous le faites depuis quelques temps, est-ce que vous pensez que justement ça avance et que les travaux sont en train d'avancer, qu'on est sur la bonne voie ?
Oui, pour l'instant, par rapport à la réunion d'aujourd'hui, on voit qu'on commence à être abouti à des avances pour les travaux. Parce qu'avant, on ne voyait pas des changements. On se réunissait sans arrêt avec la mairie et Mistral Habitat. Mais on voyait pas de résultats. Et après, on a arrêté. On a décidé d'arrêter de se réunir jusqu'à qu'on voit quelque chose qui s'aboutit. Et maintenant, ils vont attaquer bientôt, là, commencer par les fenêtres, ventilation. Et Ben, pour nous, c'est que ça commence. Dès que ça commence, bon, que ça se fait par tranche, c'est sûr que ça prend du temps, mais voilà, ben, on voit que ça va aboutir en souhaitant ça.
Pour vous, la priorité dans la réhabilitation, qu'est-ce qui est vraiment le plus urgent? Alors, vous avez parlé fenêtres, isolation, mais pour vous, qu'est-ce qui est le plus flagrant dans la réhabilitation, dans vos besoins, dans vos appartements?
Je sais pas, la salle d'eau, tout ce qui est électricité aussi, il faut que ça soit rétabli parce que ça date. Hein. Et après, l'extérieur aussi. On a besoin que le calme à l'extérieur, que ça soit propre, que nos enfants, ils peuvent y aller s'amuser sans crainte aussi. Voilà, c'est vrai que bon, pour l'instant, sortir comme ça, tranquillité, il n'y en a pas encore, mais inspirons. Hein.
Est-ce que vous pensez justement qu'en réhabilitant les façades, que ça donnera une autre image de votre quartier?
Je le souhaite justement, que quand tout le quartier soit refait, et les façades soient refaites, que les habitants ils maintiennent le règlement de l'intérieur, qui font pas aussi ce qui passe par la tête aussi. Il y en a qui font ce qu'ils veulent.
À un moment donné, dans la discussion, ils ont parlé au niveau du chauffage collectif, de mettre des compteurs individuels. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose?
Oui, c'est pas plus mal, oui. Après, tu peux le mettre en température haute ou basse, c'est à la personne qui voit, mais c'est pas mauvais que... c'est sûr que je veux pas payer pour le reste. Hein. Je paye ce que je chauffe.
Il y a une réunion publique qui est prévue le 19 avril. Quel message vous pourriez faire passer justement aux habitants qui ne se sont pas mobilisés?
Oui, on essaye de passer le message à tout le monde. Tous les gens que j'essaye de voir et de connaître, on essaye de passer le message. Mais c'est vrai que si on était nombreux auparavant, je pense que le message serait déjà passé il y a un petit moment. Mais c'est vrai, après, quand on parle, et après, il revient au budget, les accords de l'État. C'est vrai que bon, ça prend de temps.
En tout cas, Nasser, merci, vraiment merci d'avoir répondu à cette interview. Et donc, je rappelle que vous faites partie du collectif Cadre de Vie, mais que vous lancez également un appel pour que les gens soient un petit peu plus présents et qu'ils vous contactent. Alors, comment vous contactez justement le collectif Cadre de Vie si on veut vous rejoindre?
Il y a un Tricado qu'ils ont tout le temps des programmes de ces réunions. On a chaque mois, on a un programme. Et les réunions, ils sont sur le programme qui peut contacter le centre Tricado, quoi. Voilà. Et s'ils peuvent venir à les réunions, en plus, on les dit, même si c'est marqué, on le dit à notre entourage qu'il y a des réunions, mais.
Le message est entendu. En tout cas, encore une fois, merci. À très bientôt et merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Voilà, on vient d'écouter Nasser, donc qui est une bénévole au collectif Cadre de Vie de la résidence du Pou-du-Plan, qui nous parlait de sa vision justement sur la rénovation tant attendue par justement les habitants de cette résidence. Alors, tout simplement, avant de passer la parole à Josie, le programme concerne l'habilitation de 432 logements, donc collectifs sociaux, sur la commune de Carpentras. Alors, ces travaux, on l'a énuméré tout au long des différentes interviews, les intervenants l'ont bien précisé, ça concerne le chauffage, la VMC, le changement des menuiseries, la mise aux normes électriques. Il y aura aussi l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite qui sera mise en place par des rampes d'accès au pied de bâtiments et de logements accessibles en rez-de-chaussée. Cette étude, on en parlait juste avant d'écouter Nasser, est-ce que tu peux, Josie, nous donner un petit peu les résultats? Les habitants, comment ils perçoivent eux, leur résidence, comment ils s'y trouvent?
Oui, alors j'ai sous les yeux le rapport de la société Bérim sur l'enquête sociale qui s'est faite. Alors d'une manière générale, les locataires sont très accueillants, la plupart disent avoir été avertis. Peu d'exigences au niveau des appartements, souvent sur des détails du quotidien, prise de courant, robinet, fuite d'eau, menuiserie, étanchéité, etc. Les remarques sont justifiées. Ils sont plus sévères avec les extérieurs, mais semblent résignés. Plutôt une mauvaise image de la résidence, et pourtant, ils ont l'air de se plaire dans leurs appartements. En fait, ils semblent repliés sur la cellule familiale et évitent de sortir ou de rester trop longtemps dehors. Beaucoup ont conscience de la difficulté d'entretenir les espaces extérieurs, avec les jeunes, entre parenthèses, comme ils disent. Les locataires ont conscience des responsabilités de certains sur les dégradations et la difficulté d'entretenir la résidence. Jeux, poubelles, espaces verts, parking. Justement, manque de parking, manque d'espace promenade. Les locataires veulent conserver les arbres dans leur majorité. Voici les points cités le plus souvent par les locataires. Les menuiseries, les portes d'entrée, les boîtes à lettres, mauvaise isolation acoustique, des problèmes d'étanchéité, toiture, isolation thermique au quatrième étage, menuiserie intérieure en mauvais état, sanitaire et cuisine en mauvais état également, problèmes de faïence, normes électricité, vitrages des portes cuisine et séjour. Aucun reproche sur les représentants de Mistral Habitat. Bonne écoute et bon contact avec ses représentants.
Voilà, en tout cas, une étude qui vient à point nommé qui démontre que les résidents se trouvent bien au niveau de la résidence du Pou-du-Plan. Donc, ils apprécient leurs appartements. La réhabilitation, encore une fois, vient à point nommé parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans cette résidence. Oui, et tant mieux, c'est une très, très bonne chose. Alors, justement, à un moment donné, c'est Nasser qui nous parlait dans l'interview de la... Comment on appelle ça? La rénovation accompagnée, comment on l'appelle, René? La réhabilitation, non, il y a un terme que j'ai du coup oublié.
Alors, je vais te rafraîchir la mémoire, ça s'appelle auto-réhabilitation accompagnée.
Merci René. Voilà auto-réhabilitation accompagnée. Mais justement, on va entendre Thierry Gouilla, qui est animateur technique au Compagnon Bâtisseur, qui va nous présenter justement et nous parler de cette auto-réhabilitation accompagnée. On va entendre à quoi ça concerne.
Je suis en compagnie de Thierry Gouilla, qui est animateur technique des Compagnons Bâtisseurs. Nous sommes dans le cadre donc de l'auto-réhabilitation accompagnée du Pou-du-Plan.
Oui, bonjour. Donc moi je suis Thierry Gouilla, animateur technique chez Compagnons Bâtisseurs, association de Marseille qui intervient aussi sur le Vaucluse. Nous intervenons dans le cadre de la réhabilitation du Pou-du-Plan. Donc il y a une réhabilitation qui est mise en place par le bailleur Mistral Habitat qui va rénover notamment toutes les pièces d'eau ainsi que le remplacement des menuiseries de chaque logement. Donc du coup, nous avons mis en place une action qui s'appelle l'auto-réhabilitation accompagnée. L'auto-réhabilitation accompagnée, qu'est-ce que c'est? C'est une action dans laquelle nous intervenons dans les logements, en présence des locataires, avec la participation des locataires, sur des travaux bien définis qui n'incombent pas au bailleur, c'est-à-dire qui incombent à l'entretien de son logement, notamment ça peut être une chambre ou un couloir, ou un aménagement de placard, ça peut être tout un tas de choses, par contre qui ne sont pas prévues, qui sont en dehors de la réhabilitation. Nous n'allons pas intervenir sur des endroits qui sont réhabilités, bien entendu, par le bailleur. Ceci va demander effectivement des diagnostics, des visites, la présence de la famille qui participera aux travaux. La famille participera aussi à 10% du montant des matériaux apportés, jusqu'à une concurrence de 600 euros, c'est-à-dire 60 euros maximum. Et il y aura en même temps aussi 9 ateliers de bricolage qui seront répartis sur le restant de l'année où les gens viendront apprendre à bricoler sur tout ce qui concerne l'entretien de leur logement. Voilà un petit peu tout ce que va faire les Compagnons Bâtisseurs concernant cette action sur Pou-du-Plan.
Merci Thierry. Alors je voudrais te poser une autre question. Quelles catégories de personnes sont concernées justement par ces travaux d'auto-réhabilitation?
Donc effectivement, nous ferons toutes les visites demandées selon le choix des habitants, bien entendu. Les critères de sélection seront bien entendu basés par rapport aux revenus. Les revenus sont évalués par rapport au barème de l'ANA. Voilà. Donc c'est quand même assez large. Et ensuite, tout sera passé en commission de validation par rapport au chantier. Et c'est les actionnaires, enfin, pas les actionnaires, mais les financeurs qui décideront eux-mêmes chez qui nous interviendrons.
Justement, tu parles, Thierry, des financeurs. Donc moi, j'aimerais un petit peu plus savoir quels sont justement ces financeurs qui participent à ce grand projet.
Les principaux financeurs sont le conseil départemental, bien entendu, la COV, la mairie de Carpentras et Mistral Habitat, le bailleur de Pou-du-Plan.
Je voudrais te poser encore une question. Qu'est-ce que tu attends justement de toutes ces actions qui vont se passer en ta compagnie?
Le principal, bien entendu, c'est d'améliorer le logement des personnes. Notre but de l'action, bien entendu, et de notre association, c'est bien la lutte contre l'habitat indigne. Donc ce qu'on voudrait, c'est que, comme les habitants attendaient cette réhabilitation depuis nombre d'années, qu'ils se réintéressent à leur logement et qu'ils se réinvestissent dans leur logement.
J'étais en compagnie de Monsieur Thierry Gouilla, animateur technique des Compagnons Bâtisseurs, qui justement va entreprendre avec différents habitants du quartier du Pou-du-Plan, avec différents ateliers, cette réhabilitation, cette auto-réhabilitation accompagnée. Voilà, Thierry, je te remercie et je te souhaite bon courage.
Merci.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Voilà, on a fait le tour, je pense, de ce gros dossier sur la réhabilitation de la résidence du Pou-du-Plan qui se passera en 3 phases. Josy, je pense qu'on a des remerciements à faire parce que ce dossier, on n'a pas pu le faire tout seul. Un gros dossier sur la réhabilitation, on a eu beaucoup d'informations et je pense que tu tiens à remercier certaines personnes qui nous ont bien aidé.
Oui, alors parce que justement, j'ai téléphoné vendredi après-midi à Mistral Habitat pour avoir des infos que je n'avais pas trouvées. Et ils m'ont envoyé tout ça dès le même soir. J'avais des mails avec tous les documents, plein de fichiers. Et la société donc Bérim qui s'occupe de la réhabilitation également m'a envoyé tout le projet. Donc franchement, merci pour leur rapidité et efficacité.
Merci, en tout cas, tu fais bien de le souligner, René, que des gens qui ont répondu franchement aux interviews.
Toutes ces personnes ont répondu à cœur ouvert et avec beaucoup d'envie de voir ce projet se finir le plus tôt possible.
Voilà, en tout cas, merci. On clôture ce sujet, mais je pense qu'on reparlera quand même de la réhabilitation à un moment donné du Pou du Plan. On va passer à la deuxième partie de cette émission, parce que je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, j'aimerais vous passer l'interview de Bruno. Alors Bruno, il travaille, il est chez nous, il est salarié sur RTVFM. Il a tenu à faire une initiation vidéo à Ville-Marie, qui est organisée par Ville-Marie en partenariat avec la région. Et voilà ce qu'il en dit de cette petite formation, de cette formation qu'il a réalisée il y a quelques temps sur Ville-Marie. Bonjour Bruno.
Bonjour Alain.
Alors les auditeurs sont habitués à entendre ta voix sur RTVFM, puisque ça fait un an et demi que tu es animateur et technicien sur cette radio.
Effectivement.
Et là je crois que c'est une première, je suis en train de t'interviewer.
Oui.
Alors je ne t'interviewe pas dans le cadre de la radio, mais dans le cadre de ce que tu as réalisé, tu as participé à une formation à l'espace social et culturel Ville-Marie de Carpentras, dans le cadre de son projet numérique soutenu par la région. Et donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu. C'était une initiation à la réalisation d'une vidéo, entre autres. Donc, toute une journée, tu as participé donc, à Ville-Marie, l'espace social, à cette formation. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu?
Alors, on n'était pas très nombreux. On était 5 pour cette formation, mais c'était suffisant pour l'encadrant d'avoir 5 élèves, entre guillemets. Mmh. On nous a montré comment télécharger un logiciel gratuit et professionnel de montage vidéo avec toutes les différentes démarches, parce que c'est assez compliqué pour le télécharger.
Oui. Il s'appelle comment ce logiciel?
Il s'appelle It Film Express 2017.
Donc ça c'est un logiciel gratuit, donc pour
c'est
les auditeurs.
Un logiciel gratuit, professionnel, ouais. Et il est vraiment complet. Il est un petit peu difficile d'utilisation.
La prise en main est un petit peu compliquée.
Au départ, il y a quelques manipulations où il faut qu'on nous explique parce que c'est assez compliqué. Mais par rapport aux autres logiciels de vidéo, il est beaucoup plus complet et beaucoup plus précis. Alors, il nous a montré tout ça. Une fois qu'on a téléchargé le logiciel en question, il faut activer la licence. Mmh. Parce que c'est un logiciel avec une licence.
Oui.
Donc il faut donner son adresse mail et puis encore toute une procédure à faire. Donc on a vu tout ça, on a installé sur ordinateur le logiciel et après il nous a aidé à faire quelques petits montages, des fondus, les différentes opérations qu'on peut faire sur une vidéo.
Alors tu es habitué bien sûr à la radio parce que depuis un an et demi tu pratiques sur des logiciels de radio.
Audio,
là tu
oui.
étais sur de l'audio, tu étais sur de la vidéo. Alors pourquoi déjà, qu'est-ce qui t'a intéressé? Pourquoi est-ce que tu as voulu participer à cette formation?
Alors parce que je pensais que c'était un plus pour moi. Déjà, ici, j'ai découvert beaucoup de choses dans le domaine de l'audio. Dans le domaine de la vidéo, je ne connaissais rien du tout, pour ainsi dire. Et là, j'ai vu qu'au niveau manipulation, au niveau procédure pour faire un montage vidéo, c'est quand même assez simple, quoi. C'est comme quand je suis arrivé ici, que vous m'avez fait découvrir le logiciel Audacity, qui est un logiciel audio.
Oui.
J'ai trouvé qu'au niveau manipulation, il est assez facile d'utilisation.
Donc tu as participé à cette formation, une formation, on peut le dire, totalement gratuite, organisée, je le répète, par le Centre Social et Culturel de Marie en partenariat avec la région, donc entièrement gratuit.
Oui, et alors il va y avoir une deuxième session le mardi 22 mai. Et je ne sais pas, je n'ai pas encore le programme de la session, mais c'est en complément de ce qu'on a fait précédemment.
Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeurs donc, du secteur de Ville-Marie qui souhaiteraient s'inscrire, peut-être pas déjà à la deuxième phase, parce que je pense qu'il faut peut-être passer par la toute première, mais est-ce que tu leur conseillerais justement de s'inscrire et que c'est quelque chose qui... c'est un plus?
Moi, j'ai trouvé que c'est Thierry, je crois, qui nous avait reçu. Il était très compétent, était très accueillant, ça s'est très bien passé. Et moi qui suis encore... je me classe toujours dans les débutants en informatique, il a su m'expliquer clairement et facilement.
Alors, les quatre autres stagiaires, est-ce que tu as eu l'occasion, parce que je sais que c'est court, une journée, de discuter avec eux? Donc, pourquoi est-ce qu'ils participaient? Pourquoi ils participaient? Ils t'ont dit pourquoi ils participaient à ce genre de formation?
Non, j'ai pas eu l'occasion vraiment de discuter avec eux. On était chacun sur notre ordi. C'était déjà assez difficile. J'ai pris beaucoup, beaucoup d'informations dans la matinée. Et l'après-midi, il a fallu après les mettre en œuvre tout ce qu'on avait plus ou moins appris dans la matinée. Une journée, c'est court pour apprendre toute la vidéo. Mais le logiciel HitFilm Express est quand même assez simple d'utilisation par rapport à ce qu'on pourrait croire. Quoi.
Est-ce que depuis cette formation, tu pratiques un tout petit peu?
Non, j'ai des démêlés avec une petite caméra que j'ai achetée récemment, là, une fausse, je ne dirais pas la marque. Oui. J'ai des problèmes avec, mais j'aimerais bien faire des petites vidéos avec ma moto. Que je ferai des montages après. Alors le fait d'avoir suivi cette formation et maintenant de connaître HitFilm Express, je pense que c'est un gros atout.
Merci. Ben, en tout cas, je le rappelle, c'est une initiative de l'espace social et culturel Ville-Marie de Carpentras dans le cadre de son projet numérique qui est soutenu par la région PACA. Donc ça s'appelle le premier module. C'était un module d'initiation à la réalisation d'une vidéo. C'était une formation qui était gratuite, qui s'est déroulée le 13 mars et qui a permis à Bruno, donc si je peux me permettre, d'apprendre les rudiments du montage vidéo à l'aide d'un logiciel libre. J'ai bien résumé?
C'est ça.
Et c'est super Bruno, en tout cas merci d'avoir répondu à mes questions. Et puis peut-être qu'on t'interviewera à nouveau pour le deuxième module, pour la deuxième partie.
Et pourquoi pas, rendez-vous dans quelques temps.
À très bientôt, merci Bruno, ciao ciao.
Au revoir.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Voilà, mais si cette formation vous intéresse, rapprochez-vous de l'espace social et culturel Ville-Marie pour leur poser la question si justement il y aura d'autres possibilités de s'inscrire sur d'autres formations. Le temps passe très très vite, on va vite passer à un tout autre sujet qui est le sujet de la préparation de la fête du soleil. C'est Thierry Pétrone qui a été interviewé par René, il est animateur au centre social et culturel de Ville-Marie. Il nous parle justement un petit peu de cette préparation de la fête du soleil. On écoute de suite.
Bonjour chers auditeurs, cet après-midi je suis en direct de l'atelier 113 à Ville-Marie, atelier qui prépare actuellement la fête du soleil qui aura lieu le 2 juin à la salle de l'homme. Il y a beaucoup de petites personnes qui s'affairent autour justement de cette fameuse pieuvre ou calamar.
Calamar.
Et je suis en présence de Thierry, l'animateur justement de cet atelier. Thierry Pétrone qui va vous en raconter un petit peu plus sur ce qui se passe actuellement.
Bonjour à tous. Alors pour notre fête nationale du quartier qui est le 2 juin, nous préparons ensemble avec beaucoup de bénévoles, hommes, femmes, adolescents, un calamar géant qui, le corps principal, fait déjà 5 mètres de long sans les tentacules. Et à l'intérieur, les enfants pourront avoir un goût au toucher, à l'odeur, sentir la mer, l'océan, au travers de petites surprises au sol et d'animations sonores qui aura lieu le 2 juin pour notre fête du soleil.
Voilà, vous avez entendu ce que Thierry a dit. Hein. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'affairent autour à cet après-midi, c'est la peinture. Que je laisse encore la parole à Thierry pour vous dire un petit peu le déroulement de la fête du soleil qui sera le 2 juin.
Oui, alors le thème cette année est le thème de l'eau, c'est-à-dire la fête du soleil se jette à l'eau. Toutes les animations de la journée vont tourner autour de l'eau. Donc, des jeux pour les enfants, des animations aussi pour les parents. D'où l'idée du calamar. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Normalement, la fête du soleil commencera pour tous à partir de 15h et se finira vers minuit avec animation dansante comme tous les ans. Tout ça avec du plaisir, de la bonne humeur, beaucoup de bénévoles qui vont venir nous aider à tout installer dès le matin. Je les remercie par avance d'ailleurs. Et je souhaite à tout le monde de venir nous voir. C'est entrée libre et gratuite et tout le monde peut en profiter.
Voilà, donc c'était Thierry, notre animateur qu'on adore d'ailleurs, qui vous a parlé un petit peu de l'atelier qui se fait actuellement là, pour la fête du soleil. Voilà, c'était en direct de l'atelier 113 à Ville-Marie. Je vous dis à bientôt.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Alors je rappelle la date pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de la noter, c'est le 2 juin 2018 bien sûr de cette année sur le thème de la mer. On passe à notre tout dernier sujet, c'est l'animation Pied d'immeuble. C'est aussi René qui a réalisé cette interview. Elle est allée interviewer l'association Je Jubile. On écoute cette association.
Je suis au pied de l'immeuble au bois de Lubac pour un après-midi Je Jubile qui est organisé par Ville-Marie. Donc j'ai en face de moi trois jeunes hommes, Johan qui est la personne qui organise ces jeux et deux représentants de la société Jubile. Donc je passe la parole à Johan qui est animateur chez les Loulous.
Les animations qu'on propose avec Je Jubile, c'est juste des animations pied d'immeuble. C'est pour animer les différents quartiers que compose, dont on s'occupe Ville-Marie, du centre social Ville-Marie. Donc là, on a proposé cet après-midi une petite après-midi jeu avec la participation du Jubi qui met à disposition les jeux.
Merci Johan. Donc là, j'ai en face de moi un monsieur qui a un joli tricot marqué « Je jubile ». J'aimerais qu'il se présente et qu'il vous dise un petit peu ce que c'est exactement « Je jubile ».
Eh bien, je suis Thomas, je suis un responsable à Je Jubile, particulièrement autour des projets culturels, donc la découverte de la culture et de la médiation culturelle par le jeu. Et là, aujourd'hui, on est avec Je Jubile, avec les jeux en bois, c'est-à-dire qu'en fait, on est une ludothèque itinérante, on se déplace avec nos jeux, on fait du jeu de société, du jeu en bois. Ça fait 10 ans qu'on existe, et donc ça fait plusieurs années qu'on est en partenariat avec Ville-Marie et avec Johan. Et donc, on vient avec 10 tables de jeux, des jeux qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, parfois du Canada, parfois d'Allemagne, parfois d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Et donc on est là pour expliquer les jeux, mettre les gens en jeu. On est animateur ludothécaire.
Bah Thomas, merci pour ces gentils renseignements. Et j'ai de l'autre côté un monsieur aussi qui va se présenter et qui va se dire ce qu'il fait au sein des Jubiles. Comment vous vous prénommez, monsieur ?
Mehdi.
Donc je vais vous le passer, il va vous expliquer un petit peu son rôle et ce qu'il fait justement avec les Jeux Jubiles.
Bonjour, donc moi je m'appelle Mehdi, je suis animateur pour l'association Jeux Jubiles. Avec mon collègue Thomas, on est venu ici aujourd'hui pour faire découvrir des nouveaux jeux qui viennent, comme l'a précisé mon collègue, un peu partout dans le monde.
Eh bien les garçons, merci. Johan, le prochain rendez-vous de Jeux Jubiles, c'est le 2 juin pour la Fête du Soleil. Donc est-ce que tu aimerais nous en dire un petit peu plus pour les auditeurs,
hein ? La Fête du Soleil, en fait, c'est un événement que le centre social Ville-Marie organise dans le parc où il y a l'accueil de loisirs. Donc il y aura différentes animations qui seront proposées aux habitants des différents quartiers du secteur. Et tout le monde est le bienvenu, enfants, grands-parents, parents, tout le monde, pour passer une après-midi avec nous et même la soirée.
Johan, je te remercie. Messieurs, merci beaucoup. Chers auditeurs, à bientôt. Au revoir.
Vous écoutez Quartier Libre, l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Et voilà, on arrive à la fin de ce 6e numéro de l'émission Quartier Libre qui est animée par les bénévoles des centres sociaux et culturels Ville-Marie et Loutricadou de Carpentras en la personne de René, de Josie, que je remercie vraiment, vraiment pour cette émission. Merci surtout René pour tout le travail que tu as effectué.
Ah bah écoute, tu me l'as demandé tellement gentiment, puis c'est vraiment un plaisir. Hein.
Merci en tout cas à Josie aussi pour toutes ces recherches que tu as pu effectuer sur le pouls du plan.
C'est un grand plaisir.
On remercie Georges, notre invité. Merci Georges d'avoir participé en invité.
Je n'ai pas encore participé, mais je ne demande pas mieux de le faire.
En tout cas, c'est très gentil. Merci d'avoir assisté à cette émission. On en reparlera justement juste après. Merci à Théo aussi d'avoir participé en tant que technicien et avoir réalisé quelques interviews. On vous donne rendez-vous pour le 7e numéro au mois de juin. Donc restez bien à l'écoute d'RTVFM. Merci encore et on se dit à très très bientôt. Au revoir.
Venez d'écouter Quartier Libre, une émission réalisée par les bénévoles des centres sociaux et culturels du Tricadou et de Ville-Marie en partenariat avec le Commissariat Général à l'égalité des territoires, la communauté d'agglomération Ventoux-Contat-Venessin et la ville de Carpentras.